Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Au cours des trois dernières semaines, nous avons vu à quel point le culte du dieu Baal avait influencé la religion au cours des siècles, y compris la religion chrétienne. C'est la raison pour laquelle beaucoup de rites païens se retrouvent dans la liturgie chrétienne, même en ce XXe siècle. Sans doute sans le savoir, de nombreux chrétiens en sont venus à croire à des mythes, des légendes, du folklore provenant du paganisme. Une étiquette chrétienne fut donnée à ces coutumes païennes pour attirer les païens au sein du christianisme qui n'était plus celui qui avait été enseigné par le Christ et par ses apôtres, mais un christianisme arrangé, modifié pour accroître le nombre de ses adeptes. La nouvelle encyclopédie catholique Théo écrit au sujet de Noël. Dès le IIe siècle, on célébrait le 6 janvier le baptême du Christ. Pourquoi le 6 janvier ? Selon divers auteurs du IVe et du VIe siècle, on célébrait dans certaines villes d'Orient la naissance du dieu Aïon, parfois identifié avec Hélios le soleil, enfanté d'une vierge. Il s'agissait probablement d'un culte lié au solstice d'hiver. Sans doute, les responsables de l'Église ont-ils voulu, comme ils le firent souvent, christianiser des fêtes païennes plutôt que d'obliger les populations à y renoncer. En Occident, on commença à suivre la coutume instaurée en Orient. Mais bientôt, la célébration se fit le 25 décembre, date qui devint officielle pour l'Occident en 353. De nombreux autres cultes païens célébraient également le retour du soleil. Les chrétiens s'adaptèrent à ces coutumes en donnant à cette période le sens d'une célébration de ce qui était pour eux la venue de la vraie lumière, celle du Christ. Ainsi, la fête de la Nativité fut-elle fixée au 25 décembre. Pourquoi vouloir christianiser des fêtes païennes si Dieu s'y oppose? Pourquoi vouloir transférer la dévotion des masses pour le soleil vers le Christ au lieu de leur apprendre ce que sont et ce que signifient les fêtes de l'Éternel qui ont été données à perpétuité? Tous ces rites anciens pervertissent l'enseignement du Dieu véritable. Discernez-vous l'origine païenne dans le culte que vous pratiquez? Lisons ce que l'Éternel dit à son peuple à propos des nations païennes. « Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu ?»« Moi aussi je veux faire de même. » Après le décès des derniers apôtres, les fêtes de l'Éternel ne furent plus observées que par un petit nombre de fidèles. Elles étaient considérées comme des fêtes juives par ceux qui chassèrent les véritables chrétiens et prirent leur place. Comme la conversion des païens s'accroissait, ils introduisirent leurs superstitions, leurs jours, leurs mois, leurs temps et leurs années. Cela avait déjà commencé à l'époque de Paul, comme il le reproche aux congrégations en Galatie. Demandons-nous maintenant si la croix, instrument de supplice du Christ, quelle que soit sa forme, est un objet que le chrétien devrait exhiber avec fierté. Nos péchés ont nécessité la mort de notre Sauveur. Paul écrit « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés, et sont privés de la gloire de Dieu. Puisque nos péchés sont responsables de la mort du Christ, devrions-nous faire étalage de l'instrument de supplice sur lequel notre Sauveur a agonisé? Devrions-nous le porter autour du cou ou sur le revers du veston? Dans l'alphabet original chaldéen, la lettre Tau, le T, se présente comme une croix utilisée par les églises chrétiennes. Il s'agit en fait de l'initiale du dieu Tammuz, le dieu soleil. Cette croix était dessinée sur le front de ceux qui étaient initiés au mystère de la religion babylonienne. Beaucoup d'églises chrétiennes parlent encore de mystères qui sont des choses que de toute façon elles ne peuvent comprendre et pour cause. Elles ne comprennent pas ce qu'est exactement l'âme, la Trinité est aussi un mystère, ainsi que la réincarnation, la rédemption et j'en passe. Elles justifient leur ignorance avec le mot « mystère ». Le dictionnaire encyclopédique de la Bible de l'abbaye de Maretsu déclare « Le plan mystérieux de Dieu demeure partiellement inconnu aux saints. c'est le jugement dernier qui manifestera en pleine clarté sa réalisation. Mais c'est oublier les paroles adressées par Jésus à ses apôtres. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ceux qui parlent de mystère ne savent probablement pas que le plan divin est révélé par les fêtes annuelles de l'Éternel. Mais si ces fêtes sont remplacées par des fêtes païennes, il ne faut pas s'étonner que le plan divin reste un mystère pour la plupart des gens. Dans le livre « Le berceau de la civilisation », le professeur Kramer écrit ceci. « En fait de religion, les documents les plus anciens que nous possédons concernent celle qui s'épanouit en Mésopotamie. Cette religion s'appuyait sur les croyances des Sumériens et véhiculait tout un héritage de conceptions mythologiques hautes en couleurs qui influencèrent largement les religions ultérieures. Vers le 4e millénaire avant Jésus-Christ, lors de la prédominance d'Erech, An, le dieu du ciel, a été le plus important des dieux. Ce fut Anki qui organisa l'univers. Il fut détrôné par Inanna, sa propre fille, la déesse qui allait servir de prototype de l'Aphrodite des Grecs et de la Vénus des Romains. Inanna, et ce nom signifie la reine des cieux, était la déesse tutélaire d'Erech et elle avait pris la ferme résolution de faire de sa cité le grand centre culturel du pays de Sumer et du monde civilisé. Distant et inaccessible, Enlil, Anki et leurs pareils ne s'intéressaient pas aux hommes et à leurs difficultés. L'homme avait donc besoin du secours de divinités d'un rang inférieur. J'ouvre une parenthèse pour vous faire remarquer que c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui dans le culte des saints, comme nous le verrons dans quelques minutes. J'en reviens au livre du professeur Kramer. Les fêtes sacrées du Nouvel An duraient plusieurs jours et avaient pour épisode principal le mariage sacré qui unissait le roi, jouant le rôle de Dumuzi, Tammuz dans la Bible, un des premiers monarques d'Erech, et une grande prêtresse qui représentait Inanna. Il faut remarquer que la Bible déclara que Nimrod régna d'abord sur Babel, Erech, etc. Et déjà à cette époque, nous y découvrons une femme appelée Reine des Cieux. Quant à l'Assomption, il en est déjà question dans le culte babylonien. On enseigna que Bacchus descendit en enfer, arracha sa mère aux puissances infernales et l'emporta en triomphe dans les airs. Depuis un temps immémorial, les Chinois célèbrent une fête en l'honneur d'une mère qui fut arrachée par son fils au pouvoir de la mort et du tombeau. Le Dictionnaire des religions, édité en 1984, écrit ce qui suit au sujet de Marie et de l'Assomption. L'Église primitive ne lui a pas rendu un culte. Marie ne trouve place dans le culte chrétien qu'à partir du IVe siècle. Pie XII a défini, le 1er novembre 1950, l'Assomption de Marie. La définition très dépouillée fait abstraction de toute imagerie ou mythologisation. Elle ne précise ni quand, ni comment, pas même si Marie est morte ou non. Elle dit seulement ceci, « Au terme de sa destinée terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été prise au ciel, corps et âme, dans la gloire céleste. » Le mot « assumptam » ne signifie pas un mouvement local vers le haut, mais seulement que Marie a été prise par Dieu. Remarquez que cet ouvrage déclare ne pas pouvoir certifier que Marie soit morte. Or, l'apôtre Paul est certain de ce qu'il écrit sous l'inspiration divine, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. L'apôtre Jean, à qui Jésus a confié sa mère, écrit environ 35 ans après la mort de Marie, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Si il y eut assomption, l'apôtre Jean est celui à qui le Christ l'aurait révélé. » Pourquoi aurait-il attendu novembre 1950 pour le révéler au monde? Dans son livre « La naissance de l'Europe », Gérald Simon explique ce qui se passa sous le pontificat de Grégoire le Grand. Je cite « Les missionnaires devaient tout au contraire infuser un esprit chrétien aux pratiques païennes et tenter d'adapter les sanctuaires du paganisme à l'adoration du vrai Dieu. » il en résulta une sorte de religion populaire presque folklorique, mélange dynamique de survivance païenne, nuancé de christianisme et de pratiques chrétiennes adaptées aux coutumes barbares. Cette fusion conduisit à l'institution de fêtes hautes en couleurs. Cette religion folklorique se centrait sur la vénération des saints, coutume qui remontait au temps des premiers chrétiens de Rome. Elle s'appuyait sur la crédulité des croyants, qui demeuraient attachés à des formes de vénération traditionnelles, à la fois personnalisées et intimes. On en vint à croire que les prières adressées à certains saints étaient particulièrement efficaces dans des cas bien déterminés ou pour protéger telle catégorie de personnes. Les marins et les pêcheurs qui présentaient autrefois leurs suppliques à des dieux païens de la mer invoquèrent Saint Nicolas parce qu'au cours de sa vie, cet évêque d'Orient avait beaucoup voyagé. Les récits relatifs aux martyrs remplacèrent les évocations des hauts faits des guerriers et fournirent la matière favorite aux contes qui se narraient le soir à la cuisine ou à la grange. Le nombre des saints proliféra et les érudits modernes ont rassemblé des récits concernant plus de 25 000 saints différents. Fin de citation. Nous constatons que l'adoption des divinités païennes leur a fait subir une modification. Les dieux païens, connus dans les régions parcourues par les moines, furent transformés en saints chrétiens. Ils furent incorporés à la liturgie chrétienne de l'époque et ils s'y trouvent encore de nos jours. Quel en est le résultat pour le christianisme moderne? Il est tout simple. Lorsque quelqu'un invoque un saint, sans s'en rendre compte, il demande une faveur à un dieu païen, ou il s'adresse à quelqu'un qui est toujours dans la tombe et par conséquent qui ne peut rien pour les vivants. Les morts ne peuvent intercéder pour personne. Ils ne sont pas montés au ciel si ce n'est le Christ et lui seulement, comme l'apôtre Jean l'a écrit. Le Christ est et reste aussi le seul intercesseur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. L'apôtre Paul écrit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Près de 35 ans après la mort du Christ, l'apôtre Paul écrit que tous ceux qui sont un exemple de foi, comme Abel, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tous les martyrs qui furent lapidés, sciés, torturés, sont toujours dans l'attente de leur récompense. Je le cite. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Quand le véritable chrétien parviendra-t-il à la perfection? Eh bien, lors de la première résurrection qui verra le retour du Christ sur terre. Cette perfection, tous les chrétiens qui ont vécu en conformité avec les instructions divines l'atteindront en même temps, tous ensemble. Vous découvrirez cela en lisant le 20e chapitre du livre de l'Apocalypse. La semaine prochaine, je mettrai un point final à cette série sur l'origine païenne de bien des fêtes dans la liturgie chrétienne et je vous démontrerai par la Bible que nous ne pouvons plaire à Dieu en les observant.